Jacques Bettemont, bonjour.
Bonjour madame, bonjour.
Est-ce que nous pourrions commencer par un état des lieux des ressources hydriques de la Chine ?
Ah, les ressources hydriques de la Chine, c'est un problème, j'allais dire mal fichu, mais c'est pas correct de dire ça comme ça. Enfin, c'est un problème difficile pour les Chinois, dans la mesure où vraiment il ne manque pas d'eau. Mais cette eau, elle est tout entière sur le sud de la Chine, en particulier sur ce que les gens appellent le Yangtze et que les Chinois appellent le Shangjiang, ce qui est pas pareil. Alors que dans le nord, la situation est absolument dramatique, catastrophique depuis trop longtemps, mais elle va en s'aggravant. Peut-être reviendrons-nous sur ce problème ultérieurement. Mais le fait est qu'il y a une énorme question de l'eau en Chine. L'eau est au sud et les Chinois sont au nord.
C'est un peu gênant, effectivement, que c'est mal réparti. Est-ce qu'on pourrait dire que pour la Chine, l'eau est aussi importante que le pétrole ? C'est d'ailleurs Ehud Olmert, le Premier ministre israélien, qui l'a dit en 2006. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, parce que les Chinois ont un gros problème de répartition de l'eau à l'échelle du territoire, d'une part, et d'autre part à l'échelle de toutes les communautés, dans la mesure où il y a quelque chose de scandaleux, de la différence des niveaux d'équipement entre certaines régions. L'ouest de la Chine en particulier est totalement délaissé dans un état d'incurie et de solitude qui est absolument affolant.
Moi, j'avais l'impression qu'ils avaient envie de développer l'Ouest, justement.
Ils développent l'Ouest, mais ils le développent avec des vues économiques, beaucoup plus qu'avec des vues de répartition, de justice de l'eau, d'environnement. Voyez. Ça, c'est vraiment hors de question. Le pétrole, oui, mais pas autre chose.
D'accord. Alors, la Chine, c'est 21% de la population mondiale et seulement 7% des réserves d'eau. Alors, que vont faire demain les Chinois pour abreuver leur population, surtout dans le nord du pays, puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure ?
Alors, la question 7% de l'eau, il faut la couper en deux. Dans la mesure où il y a deux Chines, il y a d'une part la Chine du riz et d'autre part la Chine des céréales sèches, en particulier le millet. Donc c'est la Chine du Nord, par opposition à la Chine du riz qui est au sud. Alors la Chine du riz ne manque absolument pas d'eau, mais c'est la Chine du Nord qui est dans une situation qui a toujours été difficile. La seule rivière sérieuse, le Wanghe, est une rivière très chargée de leuses. Mais plus ça va, plus elle est chargée de leuses parce qu'il y a une érosion terrible. Et ce gros problème du nord de la Chine, c'est le suivant. Les Chinois ont déboisé les montagnes du haut bassin du Wanghe. Et d'autre part, ils ont remplacé des pâturages par des labours. Et là, l'érosion est telle que maintenant, le Wanghe, qui transportait déjà pas mal de boue, par moment, transporte 50% de sa charge, moitié eau, moitié sable. Et le résultat, c'est que maintenant, il n'arrive même plus jusqu'à la mer, plusieurs mois par an, très régulièrement. Ce Wanghe, c'est de la catastrophe de la Chine. La Chine impériale est née de la fusion de deux cultures. En bas, c'est la culture de riz, maîtriser la circulation de l'eau dans les rizières, mettre de l'ordre sur des vastes superficies rizicoles, c'était le travail d'un chef. C'est la théorie de Wigfogel. Mais dans le nord de la Chine, il y a eu d'autres empereurs qui sont venus. Et ils sont venus parce qu'ils étaient les maîtres des digues. Ils savaient endiguer les fleuves. Et pour ça, il fallait qu'il y ait une solidarité de tous les hommes de l'amont à l'aval du fleuve. Et c'est là qu'est née véritablement la Chine. Toujours autour de Wanghe, qui était la catastrophe de la Chine par ses crues monstrueuses, des digues, qu'il fallait sans cesse rehausser parce que le cours du Wanghe se rehaussait également. Et ce problème est actuel. Ce problème peut devenir dramatique. Le Wanghe est une rivière complètement folle. Dans ma jeunesse, si j'ose dire, vers 1882, il se jetait au sud de l'énorme péninsule du Shangtung. Le Shangtung, c'est une espèce de... C'est la taille du massif central un peu plus grand. C'est une petite péninsule qui se trouve dans le nord-est de la Chine. Et à la suite d'une crue, le fleuve est sorti de ses digues et au lieu de couler au sud du Shangtung, il s'est mis à couler au nord. C'est-à-dire qu'entre le tracé, l'estuaire de 1882, il y avait 800 km d'écart. 800 km d'écart et un nombre de morts incalculable. Alors mon maître Pardé, qui en rajoutait toujours, disait « Ah, peut-être 5 millions. » Certainement moins, mais il y a eu beaucoup de morts parce qu'un fleuve qui vous tombe dessus pendant des centaines, des milliers de kilomètres sans qu'on l'attende, qui arrive dans une plaine, qui se crée un lit dans une région très peuplée, c'est une catastrophe épouvantable. On n'a jamais su combien de morts, mais certainement beaucoup. Donc la question de l'eau en Chine est une question souvent dramatique. Et elle le sera plus encore pour des raisons sur lesquelles nous allons peut-être revenir.
Alors on a dit qu'elle était inégalement répartie, cette eau, entre le nord et le sud. Le nord concentre 45% de la population du pays. Et 300 millions de personnes n'ont pas accès à l'eau courante en Chine. 300 millions de personnes, c'est énorme sur 1,3 milliard.
Oui, mais qu'est-ce que c'est que l'accès à l'eau courante ? Pour les Chinois, l'accès à l'eau courante, ça veut dire très souvent un robinet dans un immeuble. Que dis-je ? Un robinet, c'est ça l'eau courante. Alors il y a des gens qui n'ont même pas ça, qui se débrouillent, à dire vrai, avec leur pluie, avec l'eau du canal, avec je ne sais quoi. Mais il est certain que la situation en dehors du littoral oriental de la Chine utile, la situation est mauvaise. Même dans les provinces qui sont apparemment riches, l'écart d'accès à l'eau entre les quartiers riches et les quartiers pauvres est considérable.
Il y a aussi le problème de la pollution, mais on y reviendra tout à l'heure. Alors, il paraîtrait que les Chinois du Nord sont presque au niveau de l'Algérie en termes de consommation d'eau par habitant, c'est-à-dire 500 mètres cubes d'eau par an, ce qui est un niveau quand même très très bas. Les Chinois du Nord et l'Algérie, on n'avait pas pensé à les mettre ensemble.
Ouais, c'est exactement ça. Je ne sais pas si... Je sais que les Algériens glissent rapidement vers moins de 500. Et je pense que la Chine du Nord glisse également vers moins de 500. C'est-à-dire une situation de stress, de détresse.
Alors en plus, les fleuves s'assèchent... Oh, c'est difficile à dire ça. Les fleuves s'assèchent de plus en plus.
Oui.
Alors pour quelle raison ?
Le fleuve du Nord, le Huanghai, est... Pourquoi ? Je vous l'ai dit, parce que d'une part, les Chinois, grâce à Mao Tse-tung, le grand bond en avant, ont défriché des terres qui n'auraient jamais dû être frichées, des pentes instables en leuse, sur lesquelles il y avait de l'herbe et des moutons. Donc ça allait à peu près. Alors on a remplacé ça par des labours, et l'eau des labours a fichu le camp dans le fleuve à toute allure. Et en plus, au-dessus, là où il y avait des sources, ben, ils ont coupé le bois. Alors, plus de protection contre l'érosion sur les hauteurs. Donc la situation va en s'aggravant à une vitesse grand V.
Pas très optimiste tout ça. Bah justement, quelle politique mène la Chine en termes d'aménagement du territoire en matière d'eau ? Parce qu'ils ont fort à faire.
Mais l'aménagement est simple, grandiose comme la Chine. L'eau est au sud, nous le mènerons vers le nord qui en a tant besoin.
Alors comment on fait ?
Eh bien, on a d'abord fait un énorme barrage réservoir sur le Shangjiang, le barrage des Trois Gorges. Et à partir de ce réservoir, on va... On commence à construire un grand canal, un canal dont les dimensions m'impressionnent, parce que si j'ai bien calculé, il va dériver plus de 2000 mètres cubes par seconde, ce grand canal. Bien, 2000 mètres cubes par seconde, c'est plus que le débit du plus grand fleuve français, 1740 mètres cubes seconde, c'est le Rhône, à Beaucaire. Eh bien, vous voyez, un canal qui débite plus qu'un grand fleuve, c'est quelque chose d'absolument hallucinant. Alors toute cette eau va passer du nord au sud au nord, pour jusqu'à la frontière, jusqu'à l'Amour et l'Oussouri, n'est-ce pas ? Aussi loin qu'on peut pousser ce canal. Évidemment, le débit ira en diminuant, mais le principe, c'est que l'eau du sud va arriver au nord. Et il y a pire. On a toujours parlé du barrage des Trois Gorges. Et on ne parlait pas de ce canal de dérivation. Mais dès le départ, il semble bien que dans l'idée des aménageurs chinois, des politiques chinois, dès le départ, la grande utilité du barrage des Trois Gorges, ce n'était pas tellement la ressource énergétique, ce n'était pas également la question du bassin rouge, sur laquelle vous me ferez peut-être parler tout à l'heure, c'était prévoir une réserve d'eau qui puisse être déviée vers le nord à n'importe quel prix.
Alors c'est les rois des barrages, les Chinois, parce qu'ils en ont quand même 22 000 sur les 45 000 que compte la planète. Alors comment ils font ?
Ils font très vite et très mal. La plupart de ces barrages sont des petites rivières sur le nord et la durée de vie des réservoirs qui sont derrière est inférieure à une trentaine d'années. Donc c'est quelque chose de sans cesse remis sur le tapis. C'est la tapisserie de Pénélope, vous voyez, cette histoire des barrages. Je ne sais pas ce que veut dire ce chiffre. Moi, j'ai vu des barrages en Chine qui étaient complètement obstrués par de la terre. On pouvait marcher dessus. Puis d'autres qui étaient en construction juste à côté. Alors comment est-ce qu'on fait le décompte ? Est-ce qu'on compte ceux qui sont en terre ou ceux qui sont en projet ? Alors, on peut aller, je ne sais pas combien, mais le fait est que les Chinois sont des bâtisseurs de barrages acharnés. Plus de la moitié des barrages mondiaux. Ceci dit, entendons-nous, ces barrages ne sont pas de grands barrages. Le Shangjiang, c'est quand même, le barrage des Trois Gorges, je veux dire, c'est quand même quelque chose de tout à fait exceptionnel, même à l'échelle de la Chine.
Et c'est les rois des digues aussi, vous en avez parlé tout à l'heure dans l'histoire.
Oui, c'est les rois des digues, mais ces digues, toutes les digues de la Chine sont à revoir sans arrêt. Et vous savez, plus une digue est élevée, plus il faut qu'elle soit large à la base. Alors à force de rehausser les digues, on arrive à avoir des bases de digues qui ont plus d'un kilomètre de largeur sur le Huanghai. Ce sont des travaux absolument colossaux et sans cesse repris. et des travaux menés non pas avec des grands moyens, mais avec des malheureux paysans, corvéables, taillables à merci, avec des pelles, des pioches, on arrive à tout avec le nombre, les fourmis.
C'est vrai.
C'est encore vrai. Ça le devient moins, bien sûr. On voit arriver les engins, mais quand même, la manœuvre humaine compte beaucoup. Elle n'est pas chère.
Alors Israël est un pays expert dans la gestion de l'eau et il conseille aujourd'hui les Chinois. Vous pensez qu'il les conseille bien ?
Mais madame, vous me la prenez. Oui, ça n'a rien qui m'étonne. Mais vous savez, les experts israéliens dans les pays où l'eau est rare, pourvu qu'on veuille d'eux, ils arrivent. Ils sont extrêmement compétents. Moi, je les ai vus à l'œuvre dans d'autres pays, en particulier dans la région d'Abidjan, en Éthiopie. Ce sont des gens qui savent très bien ce que la valeur de l'eau et qui vraiment sont des experts extraordinaires pour son utilisation. Mais l'utilisation de l'eau par Israël, c'est souvent des utilisations qui coûtent très cher. L'irrigation au goutte à goutte, autrement dit, on peut irriguer, mais on peut pas irriguer du blé. On irrigue des produits chers, les mangues, les mandarines, les tout ce que vous voudrez. Vous voyez, des fruits, des primeurs qu'on peut exporter éventuellement, puisque l'avion maintenant réduit les distances et les coûts.
Est-ce que vous pourriez nous apporter des précisions sur la technique de l'ensemencement des nuages, qui est en Chine un programme militaire ?
Oui, alors ce n'est pas une invention chinoise. La première fois que j'ai entendu parler de l'ensemencement des nuages, c'était au Texas, où un individu complètement fou d'ailleurs avait proposé, vous savez que l'Amérique est divisée en grands lots de carrés de 44 hectares, 99 acres, n'est-ce pas ? Et l'idée de ce monsieur, c'était dans le désert de peindre certains de ces carrés en noir, d'autres en blanc, et la juxtaposition du noir et du blanc amenait fatalement une condensation de l'eau en altitude. Alors à partir de là, on a eu l'idée, et ça s'est réalisé très vite, de façon beaucoup plus simple, quand un nuage passe, on peut jeter des cristaux d'iodure d'argent fixés sur des rubans, et ça résout le nuage en pluie très rapidement. Seulement, il y a un détail. Si la pluie tombe ici, elle ne tombera pas là. D'où l'idée des militaires. On peut faire deux choses, ou bien aller ensemencer des nuages qui iront noyer de malheureux qui sont pas vos amis, ou bien on peut au contraire assoiffer d'autres malheureux en prenant leur eau à l'avance. Donc l'eau des nuages constitue quelque chose, c'est un peu le docteur Follamour, me semble-t-il. Mais tout de même, beaucoup de gens y travaillent, et les Chinois, ils travaillent dans une vue pacifique. Eux, c'est l'idée de concentrer les nuages qui sont dans l'ouest de la Chine et qui ne se résolvent jamais, on les voit passer, ils ne se résolvent pas en plus, d'ici petit à petit, ils sont gâchés. Alors leur idée, c'est de les asperger de iodure d'argent de façon à obtenir de l'eau qui permettra de créer de nouvelles oasis parce qu'on a détruit les anciennes.
Cela dit, ça constitue une belle base pour une guerre environnementale demain.
Je trouve que cette idée environnementale est curieuse puisqu'elle consiste à priver d'une ressource des régions vers lesquelles la nature les ferait aller.
Mais c'est une arme merveilleuse si on peut noyer une région, par exemple, ou lui enlever l'eau.
Oui, mais c'est le contraire d'une bonne gestion. C'est une gestion, à mon avis, dramatique.
Certes, mais on parle de guerre, là.
Non, mais eux, ils parlent, vous savez, de fertiliser des régions. Et d'ailleurs, ils proposent leurs services à des gens comme les Égyptiens de la vallée de l'ouest égyptien, la vallée des Oasis, pas du Nil, et en leur disant, mais on peut vous trouver, il y a des nuages qui passent, on peut vous trouver de l'eau. Les Égyptiens sont très réticents parce qu'ils disent, cette eau qui sera là n'ira pas ailleurs. Et ailleurs, on a peut-être besoin.
C'est un dilemme. Alors, au chapitre de la pollution, on a tous en mémoire l'accident de 2005 à Harbin, qui avait eu des répercussions jusqu'en Russie. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la pollution est mieux gérée en Chine ?
Alors, la réponse vous est donnée par les Jeux Olympiques, où il a fallu nettoyer à la main les bassins pour le canoë-kayak, pour la natation, pour des tas de choses, parce que l'eau était verte. Et alors, les problèmes des algues vertes en Bretagne me semblent un joyeux Picardie à côté de ce qui se passe en Chine. Là, c'est pour les algues, n'est-ce pas ? Alors, pour ce qui est des rejets en rivière, il n'y a aucune structure de nettoyage des eaux usées dans quelque usine que ce soit en Chine. Et là, c'est vraiment un problème qui n'est pas celui de carbine et de l'essence qu'on a acheté dedans, qui est le problème des résidus infâmes que toutes les usines rejettent sans aucun traitement. Et ça, c'est un problème qui n'est pas pris en compte, parce que si on traitait ces eaux, eh bien, il faudrait augmenter le prix des marchandises que l'on vend au monde entier. Or, nous sommes dans une compétition. Nous devons accumuler du capital. Donc, sacrifions nos fleuves et gagnons des capitaux.
Eh bien, cette pollution aux pesticides, aux fluor, à l'arsenic et à tous ces joyeux... voilà, mais ça met en danger la santé des habitants.
Oh, il y en a que j'oublie. Vous savez, le grand réservoir qui alimente le barrage des Trois-Gorges, eh bien, il a sa queue de barrage dans la capitale du Bassin Rouge, Chongqing. Eh bien, il n'y a pas d'égout dans cette ville merveilleuse. Et alors, tous les résidus de la ville s'en vont dans ce lac.
Surtout que Chongqing, c'est la plus grande ville du monde. Il paraît qu'il y a 30 millions d'habitants.
Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une très grosse ville. Le Bassin Rouge, c'est une entité tout à fait à part dans la Chine, qui est d'ailleurs à l'origine du barrage des Trois-Gorges, certainement. Et c'est également un cas de pollution tout à fait abominable. Parce que les villes de Chine, généralement, ne sont pas sur des lacs, elles sont au bord de l'eau. L'eau va donc, soi-disant, tout épuré, mais un lac ne s'épure pas, l'eau est stagnante. Et alors, dans cette ville de Chongqing, on voit les rats qui courent sur l'eau parce que l'eau est assez solide pour les porter.
Ouf, solide grâce à la pollution, bien sûr.
Oui, avec les pneus, les bouts de bois, les ordures, les papiers, les étrons qui nagent là-dedans, tout y est, les égouts, voilà.
Parlez-nous un petit peu du Bassin Rouge.
Alors, le Bassin Rouge, c'est quelque chose qui, sur la carte, n'est pas très grand. En fait, le Bassin Rouge, c'est une étendue d'argile rouge, avec des sables mêlés, une terre très fertile qui se trouve... C'est grand, c'est plus grand que la France, hein, le Bassin Rouge. Ça fait pas très grand sur la carte, mais c'est énorme. Ça fait 500 000 km² comme la France. Eh bien, dans ce Bassin Rouge, il y a quand même une population dense de plus de 100 habitants au km². La population est donc plus dense que celle de la France.
Mais c'est où?
C'est à l'amont du Yangtze ou Shangjiang, comme vous voudrez. Seulement, entre la Chine du Shanghai... Et il y avait la gorge, l'énorme gorge de plus de 130 km de long, qui était très très dure à remonter, et puis tous ces étroits qui faisaient que ce Bassin Rouge était pratiquement isolé. Chiang Kai-shek s'y est réfugié au moment de l'invasion japonaise, jamais les Japonais ne l'ont délogé de là. Donc vous voyez, il était tout à fait urgent, il est urgent pour les Chinois, de combattre l'autonomisme latent de ce Bassin Rouge, qui se voit comme un État, lui, tout seul. Donc, le relier profondément à la Chine. Et pour cela, une chose très simple, le Grand Canal, qui va doubler les gorges des Trois Gorges. Il faut quand même voir une chose, c'est que jusqu'en 2009, oui, il y avait des bateaux qui remontaient, mais c'était des bateaux de péniche de 1000 tonnes, et qui mettaient des semaines à remonter ces rapides, et certains mois de l'année. Tandis que maintenant, la navigation va être continue, et elle est accessible à des navires de 10 000 tonnes. C'est-à-dire des cargos de taille tout à fait honorable. Évidemment, il y a des pétroliers de 250 000 tonnes. Mais 10 000 tonnes, ça fait déjà un gros cargo banal. Et là, maintenant, ils peuvent aller dans le Bassin Rouge sans difficulté. Sans trop de difficultés, parce qu'il y a quand même un jeu d'écluses qui est assez impressionnant à voir.
Tout ça est bien inquiétant. Alors, est-ce que le Tibet est un territoire stratégique essentiel à la survie de la Chine, puisque justement, au Tibet, il y a de l'eau?
Oui, alors... Il n'y a pas tellement d'eau que ça au Tibet. Il y en aura de plus en plus si les glaciers commencent à fondre. Mais en fait, il faut distinguer le Tibet oriental qui reçoit la mousson est très arrosé. Et c'est là que se trouvent les sources du Wan, de la Selwen, de l'Irrawaddy, du Mekong. Et toutes les sources de ces fleuves, toute la formation des gros débits se trouvent en Chine. Et là, il y a une ressource en eau absolument prodigieuse que les Chinois entendent contrôler pour produire de l'électricité. Le reste ne les intéresse pas, il y a des rapides, donc on va mettre des barrages. Et là, ça va faire vraiment beaucoup plus de production d'électricité que le barrage des Trois-Gorges. Mais le Tibet lui-même, c'est assez sec. Et l'intérêt, évidemment, il y a de l'eau, et en particulier de l'eau qui peut ravitailler les oasis du Turfan, de l'ouest chinois. Mais, vous savez, la question du Tibet, c'est une question stratégique. Dominer ce plateau, c'est-à-dire dominer l'Inde. Et l'Inde est quand même, pour les Chinois, le pays d'où sont venus des tas de traditions chinoises. Mais donc, c'est un pays potentiellement ennemi, et un pays dont la population et la puissance s'accroissent très vite. Et un pays, les Chinois leur en veulent terriblement, qui a été mis beaucoup plus tôt que eux au fait des techniques occidentales. Il faut vous dire qu'il y a bien plus d'ingénieurs de n'importe quelle catégorie en Inde que en Europe. Je ne dis pas en France, il y a de ça quelques années, je dis il y a plus d'ingénieurs agronomes en Chine, en Inde qu'en France. Mais maintenant, il y a plus d'ingénieurs agronomes en Inde que dans toute l'Europe. Donc c'est une nation qui progresse à toute allure. Et c'est une nation que les Chinois jugent dangereuse parce que eux aussi, au nom de références culturelles, veulent avoir accès au plateau tibétain.
Donc s'ils peuvent assoiffer leurs voisins, c'est pas mal non plus. Le Xinjiang manque d'eau, on l'a dit tout à l'heure, et pourtant la Chine se met en quatre pour récupérer les eaux de l'Irtych en construisant un canal, ce qui ne plaît ni aux Kazakhs, ni aux Mongols, ni aux Russes. Alors on commence par le Kazakhstan, et puis après on passera à la Mongolie, et puis à la Russie.
Et là, vous me prenez sans verre. Le fait est que bon, toute la région en question, c'est une vaste cuvette. Et les eaux ont tendance à aller se perdre dans le désert, mais les sources sont souvent en dehors de la Chine, dans les montagnes du Kunlun, par exemple. Et alors les gens des autres pays de l'Altaï, en particulier les Kazakhs, peuvent très bien couper les sources, enfin le cours amont de ces fleuves, et embarquer cette eau vers leurs oasis qui en manquent cruellement. Donc, autrement dit, priver d'eau les régions chinoises pour envoyer de l'eau en direction de la mer d'Aral qui en a tant besoin. Donc vous voyez, les enjeux sont assez lointains et la lutte pour l'eau est assez féroce. Je pense que le poids de la Chine est tel que diplomatiquement, militairement, même si c'est loin, les choses resteront en l'état et la Chine ne perdra pas son eau.
Et on ne verra pas une guerre de l'eau entre les Russes et les Chinois?
Alors, là, ça c'est... Il y a eu... Réellement, il y a eu non pas une guerre de l'eau, mais une guerre tout court, une petite guerre, sur les îles de l'Amour et de l'Oussouri, c'est-à-dire sur la frontière entre la Sibérie et la Chine. Alors que se passait-il? Ben, ces îles, c'est pas les îles de la Loire ou du Rhône, hein, c'était quand même des morceaux de plusieurs centaines de kilomètres carrés qui étaient bien arrosés, qui étaient fertiles, en dépit du fait que les hivers sont très rudes. Alors, on a commencé par se battre, et puis finalement, les Chinois étant des gens pragmatiques, ils ont fait un accord avec les Russes qui est très intéressant. Les Russes leur laissent couper du bois sur ces îles. Le bois est transformé dans des usines chinoises et une partie de la fabrication de matériaux divers, y compris Ikea, n'est-ce pas, va retourner en Russie. Voilà. Donc on peut s'entendre s'il y a un intérêt commercial de part et d'autre. Alors là, c'est moins l'eau qui était disputée que le contrôle de l'espace. Dominé par l'eau, bien entendu. Parce que ces îles, il y avait de quoi faire circuler des bataillons de tanks. Hein, c'est pas des petites choses.
Est-ce que vous pensez que la Chine, demain, pourrait être une Chine verte?
Madame, que disent les Chinois? On va prendre la gastronomie. Nous mangeons tout ce qui a quatre pattes, sauf la table et les chaises. Nous mangeons tout ce qui vole, même les mouches, sauf les avions. Mais écoutez, la Chine verte... Moi, quand j'entends parler de Chine verte en Chine, c'est pas possible. Ils vont aménager ça, ils mettront des usines, ils mettront de la pollution, ils feront de l'argent avec, mais l'environnement sera peut-être un prétexte, mais pas autre chose. Ça, vraiment, j'ai jamais vu des gens aussi peu soucieux de l'environnement que les Chinois.
Vous ne pensez pas que ça peut changer dans l'avenir?
La Chine est la Chine.
Jacques Bettemont, merci.